Chapitre 2. Souvenirs. 17 avril. Thérèse, donnez-moi mon chapeau neuf, mon beau manteau et ma canne. Mais Thérèse est sourde et lente. Elle vieillit. Le pire est qu'elle croit avoir l'ouïe fine et un bon pied. Fière de ses 60 années de travail, elle s'occupe de son vieux maître avec autorité. Que vous disais-je ? Elle ne veut pas me donner ma canne, car elle a peur que je la perde. C'est vrai que j'oublie assez souvent parapluies et cannes dans les omnibus et chez les libraires. Mais j'ai une bonne raison pour prendre aujourd'hui la canne qui me vient de mon oncle, le capitaine Victor. Depuis 30 ans, je porte cette canne quand je fais une course importante. La voici. Allons chez Madame de Gabry. Même jour. Je trouve Madame de Gabry, vêtue de noir, en train de mettre ses gants. Nous descendons l'escalier et montons en voiture. La voiture s'arrête au cimetière. « Suivez-moi, » me dit Madame de Gabry. Enfin, devant une tombe, « C'est là, » me dit-elle. Et elle s'agenouille. Je ne sais s'il y a longtemps que nous sommes devant la tombe de Clémentine, quand Madame de Gabry se lève. Nous traversons le cimetière en silence. Quand nous sommes sortis, je dis « Cette tombe m'a rappelé des émotions importantes de ma vie. Vous, vous avez connu Clémentine, les cheveux blancs, épouse et mère. Vous ne pouvez l'imaginer jeune fille, blonde, rose et blanche, comme je l'ai vue. Racontez-moi vos souvenirs. » me dit Madame de Gabry. Je vous raconterai d'abord comment j'ai connu le père de Clémentine. Monsieur de Lessay habitait le second étage d'une vieille maison de l'avenue de l'Observatoire. C'est dans cette maison que je suis né. Ma mère se levait avec le soleil, comme les oiseaux. Elle était toujours active et joyeuse. Mon père, lui, était lent. Il était fatigué et il aimait sa fatigue. Assis près de la fenêtre, dans son grand fauteuil, il lisait du matin au soir. C'est de lui que je tiens l'amour des livres. Ma mère le croyait malade, mais son envie de ne rien faire avait une autre cause. Mon père était entré dans les bureaux de la marine en 1801. Après Waterloo, on l'a mis à l'écart. Le frère aîné de ma mère, Victor Maldan, qui adorait Napoléon, était capitaine. On l'a licencié en 1815. Furieux du retour des Bourbons, il portait une canne où on voyait la silhouette de l'empereur Napoléon et se fâchait avec tous les gens qui critiquaient l'empereur. Comme il venait déjeuner et dîner chez nous tous les jours, notre maison avait mauvaise réputation. À cette époque, je rencontrais souvent dans l'escalier un homme dont les petits yeux noirs brillaient. Monsieur de Lessay était brusque avec les hommes et gentil avec les dames. Il embrassait la main de ma mère. Monsieur de Lessay était royaliste. Il détestait l'empereur. En 1820, Monsieur de Lessay, veuf depuis de longues années, s'est marié, à l'âge de 60 ans environ, avec une très jeune femme. Elle lui a donné une fille, puis est morte. Cette fille s'appelait Clémentine. Depuis cette naissance et cette mort, Monsieur Lessay fréquentait mes parents. Peu de temps après la naissance de Clémentine, j'ai perdu ma mère. Un grand silence, un grand froid et une grande ombre ont enveloppé la maison. Ma mère m'a envoyé au lycée. Clémentine et son père sont partis vivre en Normandie. Un jour, ils sont revenus nous voir. Monsieur Lessay était chauve à présent. Mais à son bras, il y avait une merveilleuse créature qui illuminait le salon. Clémentine. Ses yeux bleus semblaient surnaturels. Sa bouche entr'ouverte souriait. Son visage brillait. Elle portait une écharpe sur une robe blanche, plissée à la taille. Monsieur de Lessay nous a dit qu'il travaillait sur un atlas historique et qu'il revenait habiter Paris. Mon père a demandé à Mademoiselle de Lessay si elle était heureuse de venir à Paris. Elle l'était. Depuis ce jour, je l'ai aimée. Monsieur de Lessay, quand il a su que je sortais de l'école des chartes, m'a demandé de l'aider sur son atlas. Monsieur de Lessay était bien irascible et Clémentine était bien belle. Entre lui et elle, je passais des heures difficiles et des heures délicieuses. Monsieur de Lessay venait chaque soir prendre le café avec mon père. Ils étaient pourtant très différents. Mon père doutait de tout. Monsieur de Lessay était sec et cassant et avait ses idées. Je sentais un danger. Ce danger était Napoléon. Mon père n'aimait pas qu'on le critique. Or, pour Monsieur de Lessay, tous les problèmes de la France venaient de Napoléon. Le capitaine Victor m'inquiétait aussi beaucoup. Cet oncle terrible était devenu incontrôlable depuis que sa sœur n'était plus là pour le calmer. J'avais peur qu'il rencontre Monsieur de Lessay. Ce jour est arrivé. Ce soir-là, après le dîner, l'oncle Victor est resté. 8 coups ont sonné. C'était l'heure de Monsieur de Lessay. Quelques minutes après, il est entré dans le salon avec sa fille. La soirée habituelle a commencé. Clémentine cousait près de la lampe. Monsieur de Lessay parlait d'une comète. Mon père parlait aussi des comètes. Il s'y connaissait un peu. Et l'oncle Victor a raconté une joyeuse histoire sur les comètes. J'étais content et j'essayais qu'on continue de parler de comètes. À un moment, j'ai parlé d'une comète de diamants vue la veille dans un magasin de bijoux. Mauvaise idée. Mon neveu, a dit le capitaine Victor, ta comète ne valait pas la comète de diamants qui brillait dans les cheveux de l'impératrice Joséphine. Cette petite Joséphine aimait beaucoup les bijoux, a continué Monsieur de Lessay. C'était une noble, et elle a fait grand honneur à Bonaparte quand elle l'a épousée. Napoléon a eu une autre femme. Cette compagne, vous ne la connaissez pas, mais moi, je l'ai vue de près. Elle s'appelle la Gloire, a dit mon oncle. Monsieur de Lessay a posé sa tasse sur la cheminée et dit avec calme.
Votre Bonaparte est un polisson.
Mon père s'est levé et a dit d'une voix très douce à Monsieur de Lessay.
J'ai travaillé 10 ans dans son gouvernement et mon beau-frère a été blessé 3 fois sous mon commandement. Je vous prie, monsieur et ami, de ne pas l'oublier.
Monsieur de Lessay est entré dans une grande colère.
Je l'oubliais, a-t-il crié, quand on a servi des coquins.
À ce mot, le capitaine lui a sauté à la gorge. Sans sa fille et moi, Monsieur de Lessay mourait étranglé. Enfin, j'ai réussi à les séparer. Monsieur de Lessay a fait un signe à sa fille et il est sorti. Quand elle l'a suivi, j'ai couru après elle dans l'escalier et je lui ai pris la main. « Mademoiselle, lui ai-je dit, je vous aime, je vous aime. » Elle a gardé une seconde ma main dans la sienne. Sa bouche s'est entrouverte. Qu'allait-elle dire? Mais tout à coup, elle a levé les yeux vers son père qui montait l'escalier, elle a retiré sa main et m'a fait un geste d'adieu. Je ne l'ai pas revue depuis. Son père a déménagé et est mort peu après. Clémentine est partie vivre à Caen, chez quelqu'un de leur famille. Puis, elle a épousé un banquier, ce Noël Alexandre qui est devenu si riche et est mort si pauvre. Moi, madame, j'ai vécu seul en paix avec moi-même. Ma vie a été assez heureuse. L'année dernière, vous m'avez appris la mort de Clémentine. J'ai vu sa fille chez vous. Si un homme comme moi peut aider quelqu'un, c'est cette orpheline que je veux aider, avec votre aide. J'allais quitter Madame de Gabry quand elle m'a dit « Cher monsieur, je ne peux pas vous aider comme je voudrais. Jeanne est orpheline et mineure. Elle a un tuteur. C'est lui qui décide. » Ah, je n'avais pas pensé à cela.
ai-je dit. Elle a continué. Le tuteur de Jeanne-Alexandre est Maître Mouche, notaire à Levallois-Perret. Je ne pense pas qu'il vous plaira. Je ne l'aime pas beaucoup, mais nous irons ensemble le voir, si vous voulez. Nous lui demanderons l'autorisation d'aller voir Jeanne, qui l'a mise dans un pensionnat où elle est très malheureuse. Nous avons pris rendez-vous et nous nous sommes séparés.